À ce cycle concernant la relation de la beauté et de la vérité qui va nous permettre modestement mais réellement un parcours des grandes doctrines d'esthétique qu'ont dit les philosophes dans l'histoire de la pensée occidentale et concernant les rapports entre beauté et vérité. Voilà le programme dans lequel nous entrons ensemble ce soir. Comme de coutume au Collège supérieur, je commence par une petite page d'information pour vous dire que si vous souhaitez rejoindre ce week-end le colloque École du sens, sens de l'école, il faut y renoncer car nous sommes au-delà du remplissage. Et donc nous allons devoir refuser du monde, c'est un épisode qu'on finit par connaître, qui est toujours un peu désagréable, mais donc si vous n'êtes pas inscrit, il faut que vous renonciez à prendre part à ce colloque qui promet d'être intéressant, mais comme tout ce que nous faisons est disponible sur le site, vous pouvez toujours consulter sur le site les communications qui seront faites. Beauté et vérité. Avant de lire les grands auteurs que nous allons parcourir ensemble, avec le choix de texte que vous avez entre les mains, et qui se sont intéressés donc à la question de la vérité dans ses rapports avec la beauté, je voudrais prendre un temps pour poser la question qui nous amène à ouvrir les pages qu'ils ont écrites. Pourquoi allons-nous ouvrir ces auteurs? Quelles questions nous posons-nous quand nous associons l'idée de vérité et l'idée de beauté? Alors, il faut revenir de manière simple à ce que c'est que l'expérience de la beauté. L'expérience de la beauté, c'est une émotion. Une émotion, c'est un bouleversement des sens. Bouleversement des sens qui nous fait tituber, nous fait perdre l'équilibre ordinaire que nous avons avec le monde. J'éclate de rire, je suis en colère, je suis amoureux, ça me fait perdre le rapport ordinaire que j'ai avec le monde. Je chancelle quelque peu, car la relation ordinaire que nous avons avec le monde est faite, et bien heureusement, d'assurance. Nous avons une conduite qui nous permet d'avoir un enchaînement raisonnable des gestes et donc de pousser la porte quand il le faut et de dire bonjour à la dame. Et l'action exige de nous que nous refermions l'état des émotions. Lorsque je suis dans l'action, je ne peux pas me permettre d'être ému. Il n'est pas bon que je me dispute avec ma femme quand je conduis, ou que je sois réjoui d'une sonate que j'entends dans le poste. Et donc l'action exige de nous que nous refermions l'éventail des émotions pour une juste adaptation à ce que l'on appelle ici la réalité, c'est-à-dire ce qui est disponible au bout du geste. Et ce qui est exercé donc en vue d'un but. Au contraire, l'émotion nous trouve toujours impréparés, surpris, et l'émotion met en crise notre rapport au monde. Toute émotion met en crise notre rapport au monde, et la beauté plus que tout autre. Puisqu'on peut même, pour ma part, c'est ainsi que je comprends l'expérience de la beauté, comme justement une mise en crise de nos perceptions ordinaires. D'ordinaire, nous percevons les sons et les formes pour nous donner des informations utiles, et puis voilà que les sons et les formes nous ouvrent à autre chose, et donc créent une crise bienheureuse, mais qui aussi parfois peut attirer les larmes, peut attirer le rire, peut mobiliser fortement notre corps. Il n'y a pas d'expérience de la beauté sans une mobilisation du corps. Et je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'entends qu'il y a dans l'assistance des gens qui ont de la culture. Je les salue. dans le plaisir, cette mise en crise, dans l'expérience du plaisir. Donc la beauté, c'est une expérience de plaisir. Le beau, c'est ce qui plaît. Alors on peut se plaire à pleurer, mais le beau, c'est ce qui plaît. Dans le plaisir, cette mise en crise des émotions se donne comme une libération de nos perceptions qui sont habituellement cadenassées par les exigences de l'action. Donc le plaisir est une expérience de liberté. C'est si vrai que saint Augustin insiste sur le fait que le plaisir est la meilleure preuve de la liberté de l'homme. Car on peut à la rigueur provoquer la souffrance d'un homme, mais on ne sait pas comment provoquer son plaisir. Et il y a dans le plaisir quelque chose qui sourd du sujet lui-même, qui est spontané. Le plaisir est éminemment libre. Et il est éminemment une délivrance des sensations qui sont dissociées de leurs fonctions pratiques habituelles et qui sont comme enrichies d'une symphonie qui va ouvrir le plus possible l'éventail de ces sensations que d'ordinaire l'action exige que nous refermions. Par exemple, évidemment, je pourrais toujours vous dire « je suis très ému d'être avec vous ». Vous seriez content. Ça vous ferait plaisir, parce que maintenant, on subit tous l'injonction d'être ému. C'est fou ce que nos contemporains peuvent être émus. Si j'étais ému, je ne pourrais pas parler. Et donc, si je vous disais « je suis très ému d'être avec vous », vous sauriez que je vous mens. Donc, je ne suis pas du tout ému, et c'est ce qui me permet de faire une conférence. Sinon, une conférence, je ne pourrais pas faire si jamais j'étais d'une manière ou d'une autre ému. Au contraire, j'ai appris au fil des années à maîtriser mes émotions et la peur qui naît quand je monte sur l'estrade. Donc cette émotion est une libération dans l'expérience du plaisir. Dans l'expérience de la souffrance, c'est une aliénation. Cette émotion est une libération et on l'a aperçu, une ouverture au monde. Une ouverture au monde dans sa totalité qui ne se réduit pas aux choses disponibles et qui sont simplement au bout du geste. Seulement, toute émotion, puisqu'elle est une mise en crise, est un carrefour. Ce carrefour est le suivant. Est-ce que cette émotion va se nourrir d'elle-même, s'entretenir se complaire à elle-même, et une émotion qui se nourrit d'elle-même, ça devient ce que les philosophes appellent une passion, c'est-à-dire un jeu complètement déconnecté de la vérité et de la réalité, de l'émotion qui s'enchante d'elle-même, s'écoute elle-même. Je suis en colère, c'est une émotion. Cette émotion est juste, car si je suis en colère, c'est que j'ai vu quelque chose de scandaleux. Donc l'émotion est un indice de la valeur, c'est scandaleux. Mais si je me complais à ma colère, si je m'agite dans ma colère, si j'agite le poing, alors à force d'agiter le poing, j'aimerai ma colère et ma colère deviendra une passion, au lieu d'être une émotion. Donc on peut dire, pour simplifier, que la passion, c'est l'émotion qui se nourrit d'elle-même et qui s'aime elle-même sans plus aimer son objet, sans plus s'intéresser à son objet. Quel est l'autre terme de l'alternative que c'est que cette émotion puisse devenir à son tour action, puisse être le moteur d'une action, que par exemple ma colère puisse enclencher une action contre ce qui est injuste, contre ce qui est scandaleux. Il n'y a pas de justice sans colère. Et un jour ou l'autre, cette colère, elle va prendre la forme d'une action militante, d'une revendication, d'une politique, elle va prendre une forme. Donc soit l'émotion se nourrit d'elle-même et elle devient passion, soit cette émotion prend une forme et elle devient action. Et c'est ainsi que la mise en crise, que ce soit celle de la colère ou de la beauté ou quoi que ce soit, mais on en restera à la beauté. Mais vous voyez qu'avant d'ouvrir les pages sur la beauté, je voudrais qu'on prenne un peu de champ pour voir les enjeux. C'est ainsi donc que la mise en crise nous propose l'alternative de l'action ou de la passion. Et la passion est indifférente à la réalité de son objet. Et c'est ce qui nous conduit à la question vérité et beauté. Si la beauté est une émotion, si la beauté est une titubation du corps devant le nouveau, le merveilleux, l'imprévu, nous nous retrouvons devant le même carrefour, c'est-à-dire est-ce que cette émotion va se complaire à elle-même, ce qui est l'orientation de celui qu'on appelle l'esthète, par exemple, hein, qui va chercher l'émotion pour l'émotion, la beauté pour la beauté, le charme le plus complexe et le plus suranné possible. Ou est-ce que elle va déboucher sur un amour accru du réel? C'est une question qu'on peut se poser en présence d'une œuvre d'art. Alors, l'expérience de la beauté n'est pas seulement celle de l'art. Mais l'exemple de l'art est facile. En présence d'une œuvre d'art, au fond, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que cette œuvre d'art va m'inviter à une attitude d'esthète qui va se complaire dans la complication des formes et finir en une espèce de byzantinisme alambiqué? Ou alors, est-ce que cette œuvre d'art va m'inviter à mieux voir la réalité, à plus voir la réalité? Quand je sors d'un film, est-ce que j'ai envie d'y rester ou est-ce que ce film m'invite à mieux voir le visage de mes voisins, à mieux voir le monde? Quand je sors d'un roman, est-ce que ce roman m'invite à rester enfermé dans lui pendant des tomes et des tomes, comme la littérature pour adolescents? Ou est-ce qu'il m'invite à mieux voir le monde, à mieux comprendre le monde? Est-ce qu'il me dénoue quelque chose dans la compréhension que j'ai de mes proches et de la réalité? Et ceci est vrai pour la musique, est vrai pour toute forme. La musique peut être un alcool et elle peut donc se nourrir perpétuellement d'elle-même, ou alors elle peut être une manière d'avoir une perception du monde qui soit plus juste, plus aiguë, plus harmonieuse, plus exigeante. Et à ce moment-là, ça sera donc une ouverture sur la réalité. La question que nous poserons est donc au fond celle-ci. Est-ce que nous pouvons nous plaire à ce qui n'est pas vrai? Ben oui, bien sûr, puisqu'on peut tomber dans une sorte d'ivresse qui ne distingue plus le virtuel et le réel. Mais est-ce que cette expérience de l'ivresse est le dernier mot de l'expérience de la beauté, ou est-ce que la beauté, ce qui sera plutôt le chemin que les philosophes vont nous proposer, mais pas tous, est-ce que la beauté est une sorte d'éducation à la vérité, de propédeutique à la vérité? Vous savez que Platon disait que l'éducation doit commencer par la gymnastique et la musique. On en est loin. Et pourquoi? Parce que la gymnastique et la musique sont justement dans le corps des propédeutiques à la beauté et par là même à la vérité. Et un corps qui a appris à se maîtriser dans la gymnastique et la musique est un corps qui va devenir capable de vérité. Évidemment, si la musique lui permet de s'éclater, alors la vérité s'en tamponne. Mais si la musique, bien loin de lui permettre de s'éclater, de tomber dans une ivresse, lui permet d'avoir une perception plus harmonieuse, plus juste, plus ascétique, plus équilibrée, alors oui, l'expérience de la beauté peut être un chemin vers la vérité, c'est même le chemin vers la vérité. Donc l'intersection n'est pas si claire que ça, hein. Bien malin qui sait ce qui se passe à cette intersection, et si dans l'expérience esthétique, donc on va d'un côté ou de l'autre de cette alternative. Donc, que l'on peut résumer, alors je fais un saut, mais qui se résumera de manière assez simple et assez brutale, en disant au fond: l'expérience de la beauté peut-elle être indifférente à la réalité de son objet? Voilà la question la plus simple que l'on peut poser après cette longue introduction. Posons la question dans ses termes les plus simples: l'expérience de la beauté peut-elle être indifférente à la réalité de son objet? Est-ce qu'il y a une beauté du rêve? Est-ce qu'il y a une beauté du virtuel? Est-ce qu'il y a une beauté de l'imaginaire néantisant? Est-ce que il est sans importance que mes sensations puissent être ajustées à un objet ? Ou est-ce que l'expérience de la beauté n'est pas plutôt celle qui m'apprendra à ajuster mes sensations à un objet ? Ceci ne concerne pas le fait que l'expérience de la beauté soit la représentation de quelque chose de vrai. On ne demande pas à la musique d'être la représentation de quelque chose de vrai. La musique est indemne de la question de la représentation. On ne demande pas à l'architecture d'être la représentation de quelque chose de vrai. Mais on peut demander à la musique d'être une formation, Bildung, de la sensibilité. On peut demander à l'architecture d'être une formation de la sensibilité, de mettre le corps dans ses bonnes proportions, comme essaye de le faire Le Corbusier, et de rendre possible ainsi un rapport au monde qui soit plus ajusté et donc plus juste. Alors, armé de cette question, nous allons parcourir à grandes enjambées les doctrines donc de Platon, Saint-Augustin, Kant, Hegel, Nietzsche et Heidegger. Donc ça sera à grandes enjambées. C'est simplement pour qu'à la fin, on sache qu'on n'a rien compris à ces auteurs. Mais on va les parcourir armés de cette question. Et on peut dire que ce parcours suit un plan assez simple, que je décris de manière toute scolaire, car il n'y a rien de honteux dans ce qui est scolaire. Au contraire, tout est noble dans le scolaire. En disant que il y a un premier temps que l'on appelle l'âge classique, qui voit dans l'expérience de la beauté un apprentissage de la vérité, une initiation à la vérité. Nous le verrons à travers Platon et Saint-Augustin. Et qui, voyant dans la beauté une initiation à la vérité, donne à l'art une place mineure. Parce que si l'apprentissage de la beauté est un chemin vers la vérité, l'art, alors, est un auxiliaire provisoire, non nécessaire et au fond mineur. Platon, dont on va voir qu'il est vraiment l'amant de la beauté par excellence, dans les activités humaines, place l'art à la sixième place, juste avant les sophistes et les commerçants sans doute. Enfin, je ne sais pas. Enfin, des gens vraiment pas bien. Parce que, justement, Platon est épris de la vérité, pour lui, l'art est falsifié. Et on peut dire que la conception classique, c'est ça, c'est un art qui n'est que servant de quelque chose qui le précède et qui le dépasse. Il a une fonction liturgique, il a une fonction pédagogique, il a une fonction politique, pourquoi pas, mais il est servant de quelque chose qui le précède et le dépasse. Il y a un deuxième âge que l'on peut appeler l'âge moderne, que l'on appelle l'âge moderne. Moderne, vous le savez, dans le vocabulaire des philosophes et des historiens, ça, c'est ce qui naît au XVIIe siècle. Ce que l'on appelle la modernité, alors je résume de manière brutale, est caractérisé par l'avènement du sujet, de la conscience, qui devient le centre d'intérêt essentiel plutôt que le réel qui n'est connu que précisément que par l'expérience du sujet. Si bien que pour les modernes, le beau n'est pas dans le réel, il est dans le sujet, il est une expérience du sujet. Cette expérience du sujet peut se porter sur n'importe quelle réalité, une charogne par exemple, et vous pensez à Baudelaire. Et donc si le beau est une expérience du sujet, tout objet qu'on lui présentera, pourvu que son expérience soit juste, soit délicate, affinée, pourra être une expérience de beauté, quand bien même porterait-elle sur une charogne des Godillots pour Van Gogh, une charogne pour Baudelaire ou une chair décomposée, que sais-je. Ce n'est plus l'objet, mais c'est l'expérience du sujet qui caractérise la beauté, qui devient donc une certaine modalité de l'expérience du monde et non pas de l'être des choses. Alors, dans cet âge, cet âge moderne est celui où advient ce que l'on appelle l'art. Ce que l'on appelle l'art est une chose très récente. Il faut toujours penser que ce qu'on appelle l'art est très récent. Ça n'est à peine, le mot artiste apparaît au XVe siècle. Et les lettres de noblesse n'apparaissent guère qu'au XVIIe, XVIe, XVIIe. Et alors la posture de l'artiste également, quand ils se mettent à signer leurs œuvres, quand ils se mettent à faire leurs portraits, quand ils se mettent à parler d'eux, ce qui n'était pas du tout le cas de Phidias ou de Polyclète. Enfin, on peut caractériser le dernier âge. Alors, j'emprunte un mot à Sheringham. Les étudiants qui sont ici, je les renvoie à la lecture d'un très bon livre d'initiation de Mark Sheringham qui s'appelle « Introduction à la philosophie esthétique ». Et donc, Sheringham appelle ce troisième âge l'âge romantique. Parce que si l'âge moderne va placer haut l'art, va placer très élevé l'expérience que fait le sujet dans la création artistique, pour les romantiques, ceux que l'on peut appeler romantiques à partir du XIXe siècle, voient le beau comme ayant son lieu dans l'art lui-même. L'art étant non pas une quête du réel, non pas une manifestation du sujet, mais une manifestation de l'ultime vérité des choses. Ainsi, tous les textes que nous verrons pourront être répartis en trois chapitres. Je simplifie pour l'usage scolaire des choses. Premier chapitre, nous dirons que nous sommes dans une tradition classique, c'est-à-dire que la beauté est beauté de l'être et l'art à une place subordonnée. Expérience moderne, la beauté est une attitude du sujet, est une conduite du sujet, une modalité de son rapport au monde. Et à ce moment-là, l'art joue un rôle éminent comme création, par exemple. On va se mettre à parler de création, ce qui est quand même culotté. Et puis, troisième âge, donc, que l'on peut appeler l'âge romantique, où l'expérience de la beauté est ou serait l'ultime manifestation de la vérité. Le beau est dans l'être, le beau est dans le sujet, le beau est dans l'art qui advient l'être du monde, en qui se réalise l'être du monde et qui en manifeste la beauté. Voilà le parcours que nous suivrons ensemble si vous avez l'endurance de revenir. Il est temps d'ouvrir les pages de Platon à qui nous devons tout, à l'immense Platon auquel il faut tout le temps revenir, qui est le véritable fondateur de la philosophie. Et si vous êtes là, si vous vous posez des questions, si vous vous demandez qui suis-je, où vais-je, où cours-je, lisez Platon, et aussitôt vos piles sentimentales et intellectuelles seront rechargées. Alors, par quel biais rentrer dans l'œuvre immense de Platon ? On peut rentrer par n'importe quelle porte, je choisis celle-ci, en disant que enfin, pour ma part, je ne suis pas le seul, j'interprète volontiers la philosophie de Platon comme une philosophie du désir, une philosophie de l'éros. Et philosophie de l'éros qui prend au sérieux, qui prend de manière radicale, l'expérience de la conversion, métanoïa. Conversion, ça veut dire retournement. Et donc, le souci philosophique qui porte Platon est celui donc de cette métanoïa, de ce retournement, qui nous ferait détourner le regard des choses qui passent pour s'intéresser à celles qui ne passent pas. Nous détourner le regard des choses qui sont serviles pour s'adresser à celles qui sont libres, pour nous détourner des apparences pour nous attacher donc à ce qui est. C'est ce qui est la question de la vérité. La question de la vérité ne se pose qu'à quelqu'un qui n'en peut plus de l'opinion, des apparences, du qu'en dira-t-on, de tout ce qui passe et de ce qui se répète. Et donc l'expérience de la conversion, c'est celle par laquelle le sujet, donc qui sort de la caverne, la plupart d'entre vous ont une certaine image de la caverne platonicienne, donc il faut le contraindre à sortir de la caverne, il faut lui casser le cou. Métanoïa, c'est une opération brutale. Les professeurs connaissent bien cette opération. Mais donc ce sujet qui est retourné du monde des ombres à celui de la lumière, qui va dans son ascension aller à ce que son âme désire au plus haut. Donc Platon, philosophie du désir, parce que c'est un homme, c'est un philosophe qui prend au sérieux nos aspirations les plus hautes, justement au beau, au vrai et au bien. D'ailleurs, l'idée ultime, qui est le terme de l'ascension, qui est le terme de ses désirs, à laquelle l'expérience du beau peut nous conduire, à laquelle l'expérience du vrai peut nous conduire, l'idée ultime chez Platon, c'est celle du bien. Car pour Platon, comme pour nous, comme pour vous, comme pour votre petit cœur, ce qui compte, ce n'est pas que les choses soient belles, ce n'est pas qu'elles soient vraies, c'est qu'elles soient bien. Difficile. Mais en tout cas, il faudrait pouvoir passer par l'expérience du fait qu'elles sont belles. Si elles sont belles, elles ne peuvent pas être complètement toc. Si elles sont vraies, elle donne quelque chose qui alimente le mouvement de l'esprit, donne à l'esprit du mouvement pour aller plus loin. Et cet esprit qui a du mouvement pour aller plus loin, qui peut avoir un coup de talon grâce à l'expérience du vrai. Platon décrit les mathématiques comme un coup de talon qui nous permet de remonter. Le point de départ, c'est ce qui s'est passé pour Descartes. Quand vous faites des mathématiques, vous dites, le monde n'est pas absurde, quoi. C'est le coup de talon qui nous permet de savoir qu'on est capable de vérité. Et si on est capable de vérité, on doit pouvoir se retourner et se préoccuper d'autre chose que du cours du carambar. Si ce monde est beau et il nous suggère qu'on peut légitimement se retourner, si je peux faire une expérience de la vérité, je ne désespère pas de cette ascension qui se termine par l'assurance que ce monde est bien, c'est-à-dire que non seulement la Terre est ronde, dit Platon, mais il est bon qu'elle soit ronde, car les Grecs n'ont jamais cru que la Terre était plate. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que les Grecs croyaient que la Terre est plate, vous lui cassez la gueule. Ce qui est le meilleur sens du dialogue possible. Initiation au dialogue. Or, le désir, nous dit Platon, l'amour, Eros, est fils de richesse et pauvreté. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute le très beau mythe que Platon rapporte dans Le Banquet, dans lequel il rapporte la naissance d'Eros comme fils de Poros et Peña. Alors les traductions sont discutées, mais on peut dire abondance et pauvreté, richesse et pauvreté, peu importe. Pauvreté en guenille est amoureuse de richesse, et elle voudrait bien s'accoupler avec richesse. Mais richesse, évidemment, dédaigne pauvreté. cette Cendrillon de la philosophie. Et donc il faut que pauvreté enivre richesse pour s'accoupler avec lui, et que de cet accouplement dérobé naisse Eros, fils de richesse et pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire que Eros est fils de richesse et pauvreté? Ça veut dire que le désir, c'est en nous la plus grande pauvreté. C'est le manque. Aimer, c'est dire « I need you » en latin dans le texte. Et donc, c'est avouer une pauvreté. Mais en même temps, c'est l'expérience humainement la plus riche en possible, la plus riche en liberté. Et donc, le banquet se situe au cours d'un échange où un certain nombre de penseurs grecs se retrouvent pour faire l'éloge de l'amour. Et Socrate dit, mais non, il ne faut pas faire l'éloge de l'amour, il faut faire l'éloge de ce que l'amour aime. C'est beau la philosophie, hein ? Parce que l'amour, lui, il aime autre chose que lui-même, s'il est amour. Évidemment, si l'amour s'arrête à aimer l'amour, ben, il n'aime pas. Amaba m'a barré, comme disait Saint Augustin en anglais. J'aimais aimer, mais si j'aime aimer, j'aime pas. Donc, vous voyez, c'est le carrefour qu'on a vu de l'émotion tout à l'heure. Est-ce que j'aime aimer ou est-ce que j'aime Gertrude ? Si j'aime aimer, je suis du côté de la passion. Si j'aime Gertrude, je suis du côté de l'action. Et voilà pourquoi donc Eros est fils de richesse et pauvreté. Or, Eros est une forme antéréflexive, non réflexive de l'amour du vrai, de la recherche du vrai. Eros, dit Platon, l'expérience de l'amour est un délire. Et Platon, qui passe pour un contempteur du corps aux yeux de ceux qui ne l'ont pas lu, ce qui est toujours plus sûr pour ne pas être influencé par l'auteur, suggère avec beaucoup de force et de lumière qu'il y a dans le corps, dans l'expérience sensible, des formes qu'il appelle délire, au sens où elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes, mais qui sont tout entières orientées vers le vrai. Il y a trois délires pour Platon qui inscrivent dans notre expérience sensible une orientation vers le vrai. C'est le délire poétique, car les poètes, dit Platon aimablement, ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils disent vrai. Le délire prophétique, car les devins et les oracles ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils disent assez souvent vrai. On considérera qu'ils disent vrai. Et puis, il y a le délire amoureux. Tout tremblant, tout vacillant, et qui met dans nos entrailles même une orientation vers la vérité. Bon, je vais vous faire un petit cours de philosophie pendant 5 minutes, si vous permettez. Pour Platon, vous le savez, l'homme est peut-être décrit en trois parties. Platon ne dit pas l'homme est fait de trois parties, il peut être décrit en trois parties. Nous, thumos et pitumia. La raison, la volonté, la sensibilité. L'esprit, le cœur, les entrailles. Un homme équilibré est un homme dont la tête commande la poitrine, dans la poitrine commande le ventre. Un homme pas équilibré, c'est un homme dont le ventre commande le cœur et dont le cœur commande la tête. Une cité pas équilibrée, c'est une cité où les commerçants commandent aux guerriers et les guerriers commandent aux intellectuels. Une cité équilibrée est une cité où les intellectuels commandent aux guerriers et commandent aux commerçants. Donc il y a des cités qui vivent cul par-dessus tête et des hommes qui vivent cul par-dessus tête si Epitumia commande Thumos et Thumos commande Nous. Mais Platon dit bien que dans Epitumia, c'est-à-dire dans les entrailles, dans Epitumia, donc c'est les entrailles, c'est ce qui est en dessous du diaphragme. Alors vous laissez Platon des passes sur le yoga et l'usage du diaphragme. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des zones exotiques. Vous lisez Platon, vous voyez le travail du diaphragme chez Platon. Et donc, épithumia, c'est ce qui est sous le diaphragme. Eh bien, sous le diaphragme, il y a un rapport à la vérité. Et alors, Platon, joliment, décrit le foie comme un miroir. C'est vrai que le foie a la forme d'un miroir. Et donc, il décrit le foie comme un miroir dans lequel la lumière même de la vérité se reflète encore et peut revenir. Donc, il n'y a pas une expérience de la vérité seulement mentale. Il n'y a pas une expérience de la vérité seulement énergétique. Il y a une expérience de la vérité qui est sensible aussi. Dont font partie les poètes, les devins et les amoureux, qui sont pris d'un délire amoureux, mais ce délire amoureux les conduit à s'envoler, à s'élever. Ou alors, enfin, c'est pas évident, parce que ce délire amoureux peut aussi bien les conduire à avoir des conduites de bêtes, mais c'est le fameux carrefour que nous avons rencontré. C'est la plus grande énigme. Comment se fait-il que cette femme que je trouve si belle, je souhaite la transformer en bête ? C'est la plus grande énigme de l'humanité. Celui qui l'aura résolu nous apportera beaucoup. J'ai quelques idées sur la question. En tout cas, donc, l'amour est un délire, c'est-à-dire, fils de Poros et de Peña, une forme spontanée, obscure et désordonnée de la recherche de l'idée seule vraie, de l'idée seule réelle, et de l'idée qui ne change pas. Le grand privilège de la beauté par rapport à la vérité et par rapport au bien, c'est que la beauté attire le regard. Le bien n'attire pas le regard. La plupart des gens s'en foutent. Le vrai n'attire pas le regard. Il y a un avantage de la beauté, c'est qu'elle attire le regard. C'est le privilège, c'est ce que Platon appelle le privilège de la beauté. En effet, rappelons-nous que beauté signifie qui attire. Kalos en grec est construit sur le verbe kalein. Kalein, c'est appeler. La beauté, c'est ce qui m'appelle. La beauté me dit viens. Et donc, là, vous comprendrez toute l'expérience grecque de la beauté si vous comprenez que la beauté, c'est ce qui appelle. C'est pas une projection du sujet. C'est pas le sujet qui se projette, déverse ses fantasmes comme une poubelle. C'est au contraire ce qui l'invite à lever le regard, ce qui l'invite à se tourner vers, ce qui l'attire, la beauté attire à elle. Si bien que le regard, la contemplation, doit s'ajuster à cette attirance. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le désir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de ne pas bien comprendre ce que je dis, parce que vous êtes des contemporains, ce qui n'est pas notre faute. Et que pour nous, le désir, c'est une pulsion. Non, pour les Grecs, le désir n'est pas une pulsion, c'est une attirance. Une pulsion, elle se porte sur n'importe quel objet. Une attirance, elle vient de l'objet. C'est l'objet qui me dit viens, viens, Nico. Et qui m'attire à lui. Donc il faut cesser de parler en termes de pulsion, ou alors il faut accepter, mais il faut savoir ce qu'on dit, il faut parler en termes d'attrait. Alors effectivement, si la beauté est pulsion, elle peut expulser n'importe quoi. Mais si la beauté est attrait, alors à ce moment-là, elle est effectivement ce qui invite le sujet donc à s'élever dans une expérience qui sollicite la sensibilité tout entière. Et ainsi, pour Platon et pour les Grecs, la beauté est la manifestation sensible du vrai, la splendeur du vrai, qui attire à soi par sa lumière. Attention, retenez bien ça. La connaissance n'est pas une lumière que je projette, c'est une lumière que je reçois. Nous autres modernes, nous pensons que la connaissance est une lumière que nous projetons. Mais pour les Grecs, la connaissance est une illumination, une lumière que l'on reçoit. Et qu'on reçoit du resplendissement de l'objet lui-même. Alors, cet objet qui se manifeste dans toute sa splendeur, c'est celui qui nous fait donc lever les yeux. Il est caractérisé par le fait que, eh bien, il est pleinement ce qu'il doit être. Voilà la définition la plus simple, la plus juste et la plus ancienne du beau. Est beau ce qui est vrai, parce que est beau ce qui est pleinement ce qu'il doit être. Ça reste dans la langue quand on dit « Ah, c'est un beau salaud !» C'est-à-dire, c'est un salaud parfaitement salaud, quoi. Un salaud identique à la définition du salaud. Il accomplit toutes les réquisites du salaud. Ou quand un chirurgien montre à un de ses confrères « Tu as vu cette belle tumeur ?» C'est une tumeur vraiment, mais parfaitement tumeur. Et donc, identique à sa définition. Voilà, beau c'est ça. Un beau salaud, une belle tumeur, un beau virage, c'est ce qui est parfaitement identique à sa définition. Évidemment, ce qui suppose qu'il y ait un être des choses. Et donc, c'est la splendeur du vrai qui attire à soi le regard. Et voilà pourquoi, chez Platon, donc j'ai commencé par cette idée que Platon, c'est une philosophie du désir, une philosophie de la conversion. Et donc, la beauté, c'est ce qui nous fait lever les yeux. La beauté nous fait lever les yeux et elle nous conduit, en levant les yeux, de la perception sensible, de la réalité sensible, à ce dont la réalité sensible est le modèle. Car quand je dis que voilà, alors je prends un exemple qui est ironique et déplacé, donc, mais quand je dis voilà un beau salaud, en quelque sorte, je suis conduit à remonter de ce salaud que je vois au modèle du salaud. Quand je dis voilà une belle femme, on va prendre un exemple plus correct. Quand je dis voilà une belle femme, je suis conduit de cette femme particulière que je vois et qui mourra un jour, qui vieillira et qui sera de mauvaise humeur, à la femme telle que cette femme particulière que je vois dans sa vulnérabilité, dans sa précarité, en est la splendeur qui n'est comprise que si je lève les yeux. Cette splendeur, elle est un appel à lever les yeux. Et vous connaissez... dans le Phèdre, le beau récit, je vous invite à lire le petit livre que j'ai écrit sur le plaisir, il ne vous embarrassera pas, il fait 80 pages, et donc qui repose en grande partie sur l'analyse du récit du Phèdre, où dans le Phèdre, Platon raconte que, décrit l'homme comme fait d'un cocher, et d'un attelage composé de deux chevaux, un cheval blanc, noble, vaillant et impétueux, un cheval noir, robuste, mais indiscipliné et rugueux. Nous, Thumos et Pitumia, vous reconnaissez la tripartition évoquée tout à l'heure, le cocher, le cheval blanc, le cheval noir. Et Platon décrit le délire amoureux, en mettant donc cet attelage, cet homme, en présence d'un beau corps, d'un beau jeune homme. Et le cocher, la beauté m'invite à lever les yeux. Vous vous souvenez ? La beauté m'invite à lever les yeux. Le cocher, voyant un beau corps, lève les yeux, car il va de ce corps-là à la beauté en soi. Pendant ce temps-là, le cheval noir, tout rugueux et impétueux qu'il est, se précipite vers la chair fraîche. Et le cheval blanc est tenté de le suivre. Le cocher, écoutez bien le récit, il est magnifique. Le cocher, levant les yeux, puisqu'il lève les yeux, il relève son buste, comme je suis en train de le faire. Relevant son buste, il tire sur les rênes. Tirant sur les rênes, il freine l'attelage. Et c'est ce qui va retenir le cheval noir d'aller se précipiter comme une bête sur ce corps. Écoutez bien la leçon. Si l'attelage est réprimé, ça n'est pas par puritanisme ou pour domestiquer les chevaux. C'est parce que le cocher, lui, il regarde en haut. Et donc la répression des instincts n'est que la conséquence logique du regard orienté vers le beau. Et pas du tout une affaire de puritanisme qui dirait « faut domestiquer les chevaux ». Ça ne sert à rien de domestiquer les chevaux si ton regard n'est pas capable de s'élever. Tu perdras ton temps, tu feras de la discipline, c'est tout. Si tu veux vraiment domestiquer les chevaux, il faut que ton regard soit capable de s'élever. Et c'est, et ça sera la conséquence de l'élévation de ton regard qui permettra ce dressage. Et le texte de Platon qui est magnifique, je vous y renvoie, lisez le Phèdre, c'est un texte somptueux, on a honte de le commenter. Donc se termine, donc il y a toute une éducation de l'attelage qui, alors, dont le mors est en sang, etc. Et à la fin, une fois que l'attelage est calmé, Platon conclut en disant « Alors, le cheval noir a quelque chose à dire à son cocher. » Alors, mais seulement alors, le cheval noir a quelque chose à dire à son cocher. C'est pour ça que mon petit bouquin sur le plaisir, je l'ai sous-titré « Ce que le cheval noir veut dire à son cocher ». Mais pour que le cheval noir dise, c'est-à-dire épitumia le cheval noir, hein, pour que le cheval noir dise quelque chose à ce cocher, il faut que le regard ait été tourné vers le haut, vers la splendeur du vrai. Si bien que pour Platon, la beauté donc peut être comprise comme l'idée dans sa perfection. Alors tout ceci se trouve dans les textes que vous avez sous les yeux. Je m'aperçois que j'ai oublié de les lire avec vous. Lequel pourrions-nous lire ? Allez, le deuxième texte. Mais les autres, vous les retrouverez, j'espère, avec plaisir, en revenant chez vous. Quant à la vue de la beauté d'ici-bas, au ressouvenir de celle qui est véritable, on prend des ailes, on s'élève. De nouveau, ailé et impatient aussi de s'envoler, mais impuissant à le faire, nous sommes des oies de basse-cour, qui voit passer des oies sauvages. Quand les oies sauvages passent dans des superbes voiliers triangulaires au-dessus de la ferme, les oies de basse-cour essayent difficilement de soulever leurs ailes empesées, tressautent et retombent dans la boue. Mais elles essayent, elles voient les oies sauvages dans le superbe voilier passer dans le ciel pur et elles essayent de s'envoler. Elles ont au moins connu ce désir d'aller plus haut. Nous sommes ainsi comme des oiseaux maladroits, des albatros tombés sur le sol et qui cherchent à s'élever. Impuissant à le faire, portant vers le haut son regard à la manière de l'oiseau, mais négligeant les choses en bas, on a ce qu'il faut pour se faire taxer d'être atteint de délire. La conclusion, c'est que entre toutes les formes de possession divine, délire, celle-là se révèle être la meilleure, en même temps que faite des meilleurs éléments, aussi bien pour celui qui en est le sujet que pour celui qui y est associé. Et en outre, que la présence de ce délire, chez qui aiment les beaux garçons, fait dire qu'il est fou d'amour, toute âme d'homme, en effet, a par nature contemplé les réalités. Autrement, elle ne serait pas venue dans le vivant dont je parle. Donc dans les réalités sensibles, je découvre une trace, une empreinte, un reflet de la vérité des idées. Mais trouver dans les choses de ce monde-ci le moyen de se ressouvenir de celles-là n'est pas aisé pour toute âme, ni pour toutes celles qui, alors, n'ont eu qu'une brève vision des choses de là-bas, ni pour celles qui, une fois tombées en ce lieu-ci, ont été assez malchanceuses pour se laisser tourner à l'injustice par on ne sait quelle mauvaise fréquentation et pour y trouver l'oubli des nobles objets dont, en ce temps-là, elles ont eu la vision. Il n'en reste donc qu'un petit nombre auquel appartiennent en suffisance le don de se souvenir de la beauté vraie dont la trace se trouve encore dans la beauté sensible. Donc voyant la beauté sensible, me souvenant de la beauté vraie, j'élève les yeux et me tourne vers la beauté vraie à l'occasion de ce choc en retour que provoque la beauté sensible. Mais quand il arrive à celle-ci d'apercevoir une imitation des choses de là-bas, elles sont hors d'elles-mêmes et ne se possèdent plus, ce qui est la manifestation du délire. Voilà, vous lirez le reste du texte. Remarquez, c'est tellement beau. Bon, allez, on lit la suite quand même. Il vaut quand même mieux faire parler Platon que moi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que justice, sagesse, tout ce qu'il y a de précieux pour les âmes, ne possède aucune luminosité dans les images de ce monde. La sagesse n'intéresse personne. La vérité, ça n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas de luminosité. À grand-peine, au contraire, de troubles instruments permettent-ils à un petit nombre de gens de recourir aux représentations de ces objets pour contempler en elles les traits de famille que ces représentations ont gardés. La beauté, elle, est resplendissante à voir. En ce temps où, unis à un cœur fortuné, ces gens-là avaient en spectacle la béatifique vision, nous à la suite de Zeus et dans son cortège, d'autres dans celui d'autres dieux. Donc il fait allusion au fait que l'âme, avant d'arriver sur terre, suivait la procession de Zeus et était donc dans la lumière de la vérité des idées, lumière qui s'est obscurcie lorsque nous sommes tombés dans les choses sensibles, où cette lumière n'est plus que réfractée de manière trouble. Et la beauté est, dans les choses sensibles, l'ultime réfraction de l'expérience de la vérité. Trouble. C'est ce qui fait que je peux, voyant une femme belle, souhaiter me conduire en bête avec elle, comme le cheval noir. Ou je peux me tourner vers le ciel des idées. Mystère que nous célébrions dans l'intégrité de notre vraie nature et exempt de tous les maux qui nous attendaient dans le cours ultérieur du temps. Intégrité, alors ça c'est les caractères de la beauté. C'est les caractères de la beauté. Intégrité, simplicité, immobilité, félicité. Quatre caractères de la beauté. Intégrité, c'est-à-dire que la beauté me donne une image de la totalité. On n'est pas dans une esthétique de l'esquisse, de l'inachevé. Pour un grec, ce qui est beau, c'est ce qui est achevé. Nous autres, modernes, nous aimons l'inachevé. Pour un grec, l'être parfait, c'est l'être clos. Être en mouvement est une imperfection pour un grec. Nous, on dit qu'il faut être en mouvement, on bouge. Un grec, l'être parfait, c'est l'être qui a trouvé sa place. The right man is the right place. Et celui qui a trouvé sa place, eh bien, il ne bouge pas. Donc, intégrité, simplicité, c'est-à-dire que c'est une figure de l'un, le vrai c'est l'un, l'unité de la chose et de sa manifestation, unité du discours et de l'objet, le vrai c'est l'un. Immobilité par la même et félicité dans la mesure où toutes mes aspirations y sont comblées, appartenant à leur tour aux apparitions que l'initiation a fini par dévoiler le regard au sein d'une pure et éclatante lumière. Mais donc, il faut toujours penser que ce n'est pas une lumière que nous projetons, mais une lumière que nous recevons. Retenez bien ça, parce que si jamais vous revenez, quand nous ouvrirons des pages de modernes, vous verrez que pour les modernes, la lumière est une chose que l'on projette. Pour les anciens, la lumière est une chose que l'on reçoit. Ça change tout. Et ça change en particulier tout le rapport à la vérité. Si la vérité est une lumière que je projette, elle me laisse dans l'obscurité. Si c'est une lumière que je reçois, elle m'illumine. Pensez à une lampe de poche. Très beau souvenir. C'est à celle cet hommage. Or, c'est de la beauté qu'il s'agissait. Dans sa réalité, donc Alain, hein, appelé. La beauté appelle. La beauté me divient. Or, c'est de la beauté qu'il s'agissait. Dans sa réalité, disions-nous, elle resplendissait parmi les réalités dont il était question. Depuis notre venue en ces régions, c'est-à-dire dans le monde sensible, c'est elle encore sur qui nous avons eu prise au moyen de celui qui est le plus clair des sens, le regard, elle-même brillante et d'une supérieure clarté. De fait, la vision est la plus aiguë des perceptions qui nous viennent par l'intermédiaire du corps. Mais la pensée, elle, ne la voit point. Quels inimaginables amours ne nous donnerait pas celle-ci si, pareillement, elle donnait d'elle-même quelques claires images qui parviendraient à la vue. Mais non ! Seule la beauté a obtenu ce privilège, ce lot de pouvoir être ce qui est le plus en évidence et ce dont le charme est le plus aimable. Moi, professeur, j'aurais bien aimé que la vérité soit aimable pour mes étudiants. Mais non, il leur fallait de la beauté. Mais, évidemment, parce que c'est plus plaisant. La vérité, par elle-même, n'a pas un caractère attirant. Enfin bon, c'est ce que nous dit Platon ici. On peut approfondir cette considération. Alors, si la beauté est l'idée, le vrai compris en sa perfection, on comprend alors que le statut de l'art soit inférieur chez Platon. Parce que, de ce point de vue, l'art ne peut avoir que la place d'une imitation. Au lieu de nous élever vers l'idée, il en rajoute du sensible. Il rajoute une couche de sensible. Il rajoute une couche d'audible, de visible, au lieu de nous élever vers l'idéal, vers l'idéal. Et donc, si le chemin du désir est le chemin qui nous élève, l'art tel que le conçoit Platon suit à l'envers cette ascension. C'est donc une descension. Une descente, suit à l'envers cette ascension en multipliant de la matière au lieu de nous conduire vers l'idéal. Comme si, en quelque sorte, au lieu que la beauté de ce corps me conduise à la beauté elle-même, en reproduisant ce corps, je remets une couche de matière, je remets une couche d'apparence et je passe à une apparence de l'apparence. Donc l'art ne sera qu'une apparence de l'apparence, un redoublement de l'apparence, et non pas une conversion vers ce qui est au-delà de toute apparence, c'est-à-dire de ce qui est vrai en soi. D'où les pages assez célèbres de Platon sur la place mineure qu'il faut accorder aux artistes, en particulier dans la cité, puisque vous savez que Platon se méfiait beaucoup de la présence des artistes dans la cité et qu'il évinçait dans la cité idéale, il fallait que les poètes fussent évincés. Alors, on peut lire le texte numéro 3, qui est un texte très classique, que beaucoup d'entre vous sûrement connaissent. Le menuisier, donc on prendra comme fabricant, artiste. Le menuisier, ne disais-tu pas qu'il ne fait pas l'idée qui est, selon nous, l'essence du lit, mais un lit particulier. Donc s'il ne fait pas l'essence du lit, il ne fait pas le lit réel, mais quelque chose qui ressemble au lit réel sans l'être. Si quelqu'un soutenait que l'ouvrage du menuisier est une réalité complète, il risquerait de se tromper. Première étape, le menuisier, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne copie pas un lit, il copie l'idée du lit. La preuve, c'est qu'il ne va pas copier un lit endommagé. Le réparateur de navette, la navette c'est ce qui sert au tisserand, le réparateur de navette ne va pas copier la navette usée, il copie la navette idéale. Donc l'artisan n'a pas les yeux tournés vers des modèles visibles, qui sont tous périssables et usés, mais il a le regard tourné vers l'idée qu'il va matérialiser dans le lit, dans la navette, dans l'objet qu'il construit. Veux-tu maintenant qu'en prenant ces ouvrages pour exemple, nous recherchions en quoi consiste l'imitation ? Ces lits ne se présentent-ils pas sous trois formes ? L'une, qui est la forme naturelle et dont nous pouvons dire, je crois, que Dieu est l'auteur, c'est-à-dire l'idée du lit, autrement qui serait-ce ? Puis un deuxième, le lit du menuisier, puis un troisième, le lit du peintre, essayez de dormir dans un lit de peintre. Un troisième, celle du peintre, n'est-ce pas ? Ainsi, peintre, menuisier, Dieu, sont-ils trois qui président à trois espèces de lits. À l'égard de Dieu, soit qu'il ne l'ait pas voulu, soit que cela a été une nécessité pour lui, en tout cas, il a fait un seul de lits, un lit unique par essence. Mais deux lits de cette nature ou davantage, c'est ce que Dieu ne fera pas, c'est ce qu'il ne produira pas. Pourquoi ? Parce que s'il en faisait deux, il en apparaîtrait un troisième, dont ces deux-là réaliseraient l'idée. Et celui-là serait le lit par essence et non pas les deux autres. Veux-tu dès lors que nous donnons à Dieu le nom de créateur de cet objet ? Et le menuisier alors, ne l'appellerons-nous pas l'ouvrier du lit ? Alors lui peut faire plusieurs lits, l'ouvrier, le menuisier. Et le peintre, dirons-nous que lui aussi est l'ouvrier et le producteur de cet objet ? Nullement. Car qu'est-il par rapport au lit ? Le nom, répondit-il, qui me paraît le mieux lui convenir, est celui d'imitateur de la chose dont ceux-là sont les ouvriers. Bien, dis-je, alors tu appelles imitateur l'auteur d'un produit éloigné de la nature, de la vérité, de 3 degrés. Platon, dans Le Sophiste, nous invite à distinguer le simulacre et la copie. Le fantasme, simulacre, fantasma, et l'icône, l'image, icône. Quelle est la différence entre le simulacre et la copie ? C'est que le simulacre cherche à produire un effet sur le spectateur. Par exemple, il va peindre le lit en perspective. Alors que la copie cherche à reproduire les proportions du modèle. Donc le simulacre est orienté vers le spectateur pour le tromper, comme la perspective, alors que la copie est orientée vers l'objet pour le restituer dans ses proportions, dans son harmonie, dans sa vérité. Et donc, si je distingue le simulacre et la copie, je distingue bien les deux mouvements qui sont possibles. Vous voyez, c'est cette alternative par laquelle j'avais commencé. Les deux mouvements qui sont possibles pour l'œuvre d'art, ou se tourner autant qu'il lui est possible vers l'idée et traduire l'harmonie du vrai, ou bien en rajouter dans l'illusion, en rajouter dans l'apparence et donner l'impression que le personnage va bouger, qu'il va parler et que la salle est profonde alors que ça n'est qu'une surface. Le simulacre renvoie au sujet, la copie reconduit à l'objet. Pour terminer ce tour d'horizon, bien entendu trop rapide, de la réflexion de Platon sur la beauté, il faut tout de même s'arrêter à la dernière page, c'est-à-dire à la mort de Socrate. Parce que vous savez que Platon, rapportant dans le Phédon les dernières heures de Socrate, avant son exécution, avant qu'il ne boive la ciguë, nous rapporte que Socrate se serait mis à écrire des poèmes et aurait appris à jouer de la cithare. C'est un peu tard pour se mettre à apprendre à jouer de la cithare dans le peu d'espace qui lui reste entre sa condamnation et son exécution. Et donc ses compagnons, ses disciples lui disent « Mais pourquoi diable, Socrate, t'es-tu mis à apprendre à jouer de la cithare et à dire des poèmes ?» Et alors Socrate dit « J'ai eu une inspiration du Dieu qui m'a dit « Socrate, il faut que tu fasses une œuvre d'art. » Alors, à tout hasard, pour ne pas risquer de désobéir au Dieu, j'ai appris la cithare par une méthode rapide. Et ce texte qui est très beau, je vous y renvoie, relisez le Phédon, nous suggère aussi que s'il y a une œuvre d'art, c'est pas la cithare. C'est pas les poèmes de Socrate, c'est Socrate lui-même. Socrate soit une œuvre d'art. C'est-à-dire soit celui en qui la lumière du vrai se manifeste. Soit celui qui ne va pas produire des choses qui copient, mais soit toi-même la copie de ce que tu admires. Ce que nous dira plus tard dans une citation devenue célèbre, avec beaucoup de malentendus, parce que c'est pris pour une réclame de bodybuilding, Plotin, quand il dit « sculpte ta statue intérieure », les gens oublient que c'est une statue intérieure. Et donc, quand Plotin nous dit « sculpte ta statue intérieure », ça veut dire que la réponse que le sujet peut donner à l'expérience de la beauté, c'est d'être lui-même l'œuvre d'art. et non pas d'en faire. Car s'il en fait, il va reproduire indéfiniment de la matière, de la matière, de la matière, de la copie, de la copie, de la copie, de la copie, et aller sans cesse vers la multiplication des apparences. Comme dans une construction en abîme. Alors Platon approfondit cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art dans les lois, lorsqu'il dit que les hommes ont à vivre comme s'ils célébraient une liturgie. Si je vivais comme si je célébrais une liturgie. Et liturgie tournée vers le Dieu, une liturgie tournée vers l'honneur du Dieu, qui n'a pas pour spectateur des spectateurs de spectateurs de spectateurs qui applaudiront et riront, mais qui a pour spectateur le Dieu. Et s'il y a une œuvre d'art, et s'il y a un dédicataire de l'œuvre d'art, s'il y a une œuvre d'art authentique, c'est celle qui fera remonter le sensible au divin, et non pas celle qui va démultiplier le divin. Et une œuvre qui fait remonter le sensible au divin, elle a au fond une signification liturgique. Et s'il y a un objet qui a à être façonné par une liturgie, ça ne sera pas de la poterie, ça ne sera pas de la céramique, ça ne sera pas de la gouache, de la peinture, etc. C'est moi. Et s'il y a à ce moment-là une œuvre d'art que je puisse façonner, il y en a une seule qui en soit digne, c'est moi, et c'est ce que fait le philosophe, du moins Socrate, qui n'était pourtant pas connu pour sa beauté. Socrate était même connu pour sa laideur. Mais c'est justement le paradoxe auquel s'attache Platon, que Socrate, les témoignages qu'on a sur Socrate sont unanimes sur ce point, Socrate était laid. Bon, pour un grec, c'est un très mauvais point d'être laid, puisque les Grecs sont justement attachés à l'idée que la beauté est la splendeur du vrai. Mais Socrate, tout laid qu'il soit, n'en a pas moins fait de son œuvre, de sa vie, une œuvre d'homme, c'est-à-dire une liturgie en l'honneur des dieux, qui célèbre dans sa personne l'union de la beauté et de la vérité. Car l'union de la beauté et de la vérité, ça ne sera pas dans un tableau qu'elle se trouvera. C'est en moi. L'union de la beauté et de la vérité ne sera pas dans une sonate, dans une musique, dans n'importe quoi. C'est en moi. Il y a un seul point de jonction du beau et du vrai. Pas de chance, c'est moi. Et si je le délègue à une œuvre, à un spectacle, je retarde l'ascension ontologique qui me permettrait d'unir les noces du beau et du vrai qui n'auraient jamais dû être rompues.